Nous sommes ici, donc, Parashat Shemot, chapitre Bet. Vayelech ish mi Bet Levi. Il est parti un homme de la maison de Lévi. Vayikach et Bat Levi, il se mariait avec la fille de Lévi. On ne dit pas le fils de Lévi se mariait avec la fille de Lévi, mais un homme de la maison de Lévi, donc c'est un petit-fils. Donc la Torah ne donne ni le nom de l'homme, ni le nom de la femme, c'est plus tard. On sait que lui s'appelle Amram, elle s'appelle Yochevet, mais pourquoi la Torah ne veut pas donner le nom pour le moment? C'est parce qu'il y a deux catégories des personnages. Il y en a qui sont importants pour eux-mêmes, pour leur mérite. Mais il y en a qui sont encore plus importants pour le mérite qu'ils ont des enfants merveilleux. Alors Amram est un Gadol Ador, mais plus qu'il était le Gadol Ador, il était le père de Moshe Rabbeinu. C'est encore plus grand. Donc la Torah ne veut pas dire le nom maintenant, parce qu'elle garde la chose, elle garde le secret, jusqu'à après on voit que si c'est Moshe, Hashem a parlé avec Moshe. Et donc la fierté d'Amram, le bonheur d'Amram, c'est d'être le père de Moshe. Donc la Torah nous donne son nom, qu'une fois que Moshe Rabbeinu il va chez Paro, Moshe Rabbeinu il parle avec Hashem, là on nous dit c'est le père d'Amram, c'est le fils d'Amram, parce que Amram était heureux d'être le père de Moshe. Donc pour le moment c'est une espèce d'anonyme. Un homme de la maison de Lévi part, va yikaché, il prend et bat Lévi, la fille de Lévi. Donc le fils c'est vraiment la fille, Yochevet c'était la fille de Lévi, donc il se marie avec sa tante. Normalement, après que la Torah est donnée, on n'a pas le droit de se marier avec la tante. Mais maintenant, nous sommes avant. Avant que la Torah ait été donnée, ça a été permis parce que ces personnes avaient la loi d'un goy, d'un ben noir. Seulement, quand ils pouvaient faire la Torah, ils faisaient la Torah, mais ils n'étaient pas obligés de le faire. Donc, quand ils pensaient mieux faire autrement que la Torah, ils avaient le droit de faire autrement que la Torah. Une fois que la Torah elle est donnée, on ne peut plus changer. Mais tant que la Torah n'est pas donnée, on peut changer. Donc l'homme de Lévi est parti et il a pris la fille de Lévi. Donc c'est Amram qui se marie avec Yochevet. Et pourtant on sait que quoi? Qu'ils avaient déjà des enfants. Parce qu'Aaron et Miriam étaient plus âgés. Et ici maintenant va naître Moshe. C'est pour ça que Chacham raconte qu'en vérité ils étaient mariés. Mais après Amram il a renvoyé sa femme. Parce qu'il a vu qu'il faut jeter tous les enfants dans le fleuve. Donc il a dit, ça ne vaut pas la peine de mettre des enfants au monde s'il faut le jeter dans le fleuve. Mieux vaut que je me sépare de sa femme. Et après, Myriam, il a dit, non, tu es pire que Paro. Parce que Paro empêche la naissance des garçons et toi, tu veux empêcher la naissance des garçons et des filles. Donc il se remariait avec sa femme. Donc ici, on parle du remariage. Voyez le chishmi bet levi, voyez kachet bat levi. Il s'agit donc d'un remariage. Pshat Pashut, il s'appelle le premier mariage. Vatar Haïsha. Donc la femme est tombée enceinte, Vatar et Ben, elle a accouché un fils. Donc on nous dit ici, Vatar, elle est tombée enceinte, elle a accouché. Mais évidemment, elle tombe enceinte. On ne peut pas accoucher si on n'est pas enceinte. C'est quoi la douche? Parce que la Torah veut parler de la grossesse. Parce que la grossesse de cet enfant est très importante, étant donné que pendant les 9 mois, ou les 7 mois, ou les mois de la grossesse, un malach apprend toute la Torah au Vlad. Seulement, le malach, il apprend à chaque personne ce que lui est capable de comprendre la Torah. Mais Moshe Rabbeinu, c'est l'homme vraiment, là, c'était un grand chiour. Les mois de grossesse de Yochevet, c'est là, le malach, il avait beaucoup à faire, apprendre à Moshe Rabbeinu toute la Torah. Donc cette grossesse est quelque chose d'important. Donc Vatahar Haïsha, elle est tombée enceinte, elle était en grossesse. Ça, c'est un événement extraordinaire. Vatel et Ben, elle a accouché. Vatere Oto Kitovu, elle a vu qu'il est bon. C'est un bon garçon, mais tous les garçons sont bons. C'est-à-dire quoi, bon? C'est spécialement bon, c'est pas simplement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'elle a vu? Il a vu qu'il tov, ou elle a vu tov. On aurait pu dire qu'il barille, qu'il est fort, qu'il est en bonne santé, mais il est bon, c'est-à-dire un bon caractère. C'est un homme bon. Donc ça, c'est la première qualité de Moshe Rabbeinu, c'était un homme tov, un homme bon. Mais Rashi dit, le mot tov fait allusion à ce qui marquait tov au début de Sefer Bereshit. Au début de Sefer Bereshit, Vayar Elokim et Taor ki tov. La lumière est bon. Donc ici, Tov, c'est-à-dire lumière. D'ici, on voit qu'il y avait une lumière dans la maison d'Amram. Tout a été éclairé. Quel genre de rayon, un rayonnement. C'était un rayonnement de Kedusha, de lumière, de Chochma. Toute la maison était illuminée par ce géant, par la bonté, cette Neshama si extraordinaire. Ki Tov hu. Rashi dit, toute la maison était pleine de lumière. Et ça a été ressenti, Amram, Yochevet, Myriam, Aaron, tout le monde a ressenti, oulala, dans cette maison, c'est quelque chose de spécial. Probablement les voisins, les voisines aussi, ouais, c'est bien d'arriver un enfant hors commun. En plus, Moshe Rabbeinu était plus grand que les autres. Moshe Rabbeinu, après, il était 10 amot. Il est 5 mètres grand, il était géant, peut-être déjà comme bébé, il était grand, peut-être. Quelque chose hors de commun. Vatitz Peneihu Shelosha Yarachim est le caché. Vatitz Peneihu vient du langage Tzafun. Titz Peneihu, Yatzadik Peinun. Ça veut dire Tzafun, caché. Quand il y a une grande lumière, il faut le cacher. Pourquoi? Parce que pour personne vient éteindre, pour pas que les gens lui donnent Aïnara, pour pas qu'il arrive du mal, il faut cacher la lumière. La lumière doit être cachée, donc elle a réussi à le cacher pendant 3 mois. Bon, Pshat Pashut, il fallait le cacher devant la police égyptienne, parce qu'eux, ils ont reçu l'ordre de jeter tous les garçons dans le Nil. Donc évidemment, il faut le cacher. Mais Moshe Rabbeinu, spécialement, comme il sera le libérateur des Juifs, il faut faire très attention qu'il n'y a pas du mal qui arrive. Elle a caché chez l'Osha Yerachim 3 mois. Velo yachla od hatspino. Aussi, les 3 mois, c'est fait allusion de Pesach à Shavuot. Pesach, c'est Nissan. Après la rivière, après la rive Sivan, on peut cacher la lumière jusqu'au 3e mois. Après Shavuot, la Torah sera donnée. On ne peut pas éternellement cacher la lumière. Elle ne pouvait plus continuer à le cacher. Vatikachlo, elle a pris pour lui, c'est-à-dire à sa mesure, pour lui, quelque chose de spécial pour lui. Teivat gome. Teivat, c'est quoi teivat? Un panier gome. C'est quoi gome? Gome, ça veut dire quoi gome? Rachid dit gemi, belashon arav. Oubelaaz, jonc. C'est du jonc. C'est quoi du jonc? C'est des roseaux. C'est du roseau. Davarach, vomet, bifnerach, bifner caché. C'est résistant. C'est quelque chose de très résistant. C'est doux et ça résiste. Rachid, davarach, c'est quelque chose de doux et ça tient devant le doux et devant le dur. C'est-à-dire, les gens, ils croient que quelque chose de dur résiste mieux, mais c'est faux, c'est quelque chose de doux résiste mieux. Quelque chose de doux résiste mieux. Quelque chose qu'il faut protéger avec la douceur. Teivat gome, elle a pris pour lui, donc un panier spécial, pas un panier normal, un panier plus grand. Gome, c'est intéressant ce mot gome. Rachid dit gemi. Gemi, normalement, c'est des lianes. Des lianes des arbres. Peut-être c'était des lianes. Jonc. Lianes. C'est quoi des lianes? C'est des branches des arbres qui on peut travailler. Va tachmara. Elle a enduit. Va cheimar avec de l'argile. Ou bazafet et du goudron. Donc, elle mettait du goudron à l'extérieur et mettait de l'argile à l'intérieur pour rendre ce petit bateau imperméable. Et pourquoi la Torah nous raconte tellement en détail comment a été fabriqué ce bateau? La Torah, il aurait pu Ouais, Dieu, ben c'est quelque chose. Bon, dans la Torah, on rentre en détail. C'est si important à savoir protéger de l'eau. Ça veut dire, tu as ici dans le Nil 100 millions, milliards de litres d'eau et pas une goutte rentre dans ce petit bateau. Moshe Rabbeinu est protégé devant cette eau. Et ça, ça a été déjà le petit Kriyat Yamsouf. Moshe Rabbeinu, après, il a fait passer les Juifs par les Yamsouf. Et toutes les eaux, tous les eaux des Yamsouf n'ont pas pu noyer un Juif. Donc ce miracle de Kriyat Yamsouf, Moshe vient de le vivre sur sa propre peau déjà pendant quelques minutes. Un quart d'heure qu'il est en plein eau et il est protégé. Donc c'est la préparation de Kriyat Yamsouf, qu'est-ce qu'elle est en train de faire sa mère. Vatasem ba et hayelet. Elle a mis dedans le yelet. Elle a mis dedans ce yelet. Il s'appelle yelet. Normalement, c'est un petit, un tinoc. Yelet, c'est plus grand. Alors, vatasem basouf. Elle a posé basouf. Qu'est-ce que c'est souf? Souf, c'est quoi? Un genre. Roseau. Là où il y a des roseaux, un lac de roseaux. Al Sefat Ayor, au bord de la mer. Sefat veut dire aussi les lèvres du fleuve, les lèvres, parce que le bord c'est les lèvres. Sefat veut dire aussi le langage du fleuve. Et l'ami Basouf, Al Sefat Ayor, le langage du fleuve. Le fleuve c'est une idolâtrie. Sefat Ayor, le fleuve, il a un langage. L'idole a un langage et souf, ça veut dire la chanson sauf la fin. Elle a posé à la fin du langage du fleuve, ça veut dire Moshe Rabbeinu, il a bloqué le langage du fleuve, c'est-à-dire le langage de l'idolâtrie, c'est-à-dire la propagande de l'idolâtrie. Eh bien, on a posé Moshe souf, ici c'est la fin, ça y est, ça s'arrête. La propagande mensongère des idoles. Eh bien, Moshe, il va bloquer ça. Elle a mis Moshe, ça y est, tu as bloqué ici le fleuve. Le langage du fleuve va s'arrêter ici. Et sa sœur s'est installée de loin. Elle s'est installée de loin. L'EDA, afin de savoir, ma. Il y a assez l'eau, ce qui lui arrive. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il sera en danger? Ou elle savait que d'une manière ou d'une autre, Hachem il va sauver son frère, mais elle veut quand même savoir de quelle façon. Et peut-être, il a besoin, ce garçon, il a besoin qu'elle intervienne. Bon, elle avait raison. Et pourquoi c'est la sœur qui s'installe? Pourquoi c'est pas le père ou la mère? Pourquoi la sœur et pourquoi pas le frère? Pourquoi pile la sœur? C'est plus gentil, une fille, c'est plus quoi? Le père, il était le grand raf. Maman était le gadol ador. Donc si le gadol ador il va s'installer, les juifs ils vont s'attrouper autour de lui. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous faites ici? Mais qu'est-ce que vous regardez? Les policiers vont le remarquer, il y a quelque chose de bizarre. Si ça, la mère vient aussi, peut-être aussi, elle était connue. Mais la sœur, c'était une petite, qu'est-ce qu'elle a? Elle avait 6 ans. Myriam, une petite fille de 6 ans. Bon, c'est pas grave. Une petite fille de 6 ans, elle traîne là-bas, elle regarde, on remarque pas. Donc, elle est la meilleure gardienne. Et aussi, c'était donc un schout que Myriam a sauvé. Moshe, Hachem, il a voulu quoi? Que la grande sœur sorte. Sauve le petit frère, la grande sœur. Comme ça, Moshe, il sera reconnaissant vis-à-vis de sa sœur. Comme ça, il va moins s'énerver quand elle parlera la sonara de lui. C'est-à-dire, peut-être, Amram et Yocheved, ils ont dit, mieux vaut que Myriam surveille. Comme ça, Moshe aura de reconnaissance. Nous sommes déjà vieux, Amram et Yocheved étaient vieux. Yocheved, elle avait 130 ans. Oh, ils vont bientôt mourir. Alors, ce qui est important dans la vie de Moshe, qui s'entend bien avec sa sœur. Donc, on va donner un zrout à notre fille, qu'elle s'occupe du frère. Et aussi, s'il faut intervenir, comme après, on a vu la fille de Paro, mieux vaut une petite fille, c'est plus mignonne. C'est moins, on va moins soupçonner que c'est un coup. Parce que vérité, moi, Amram et Yocheved, ils ont compris que le bon Dieu, il est en train de préparer ici un coup d'arnaque. Il va sauver maintenant le libérateur du peuple juif. Et donc, mieux vaut que ça se passe comme ça, par une petite fille, on ne remarque pas. Comme ça, la police égyptienne va être moins attentive. Va Teired, pourquoi elle s'est installée de loin, Meirachok? Pourquoi elle s'est installée de loin? Pourquoi elle s'est installée pas proche? Parce que sinon, les gens ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle attend ici? Puis à côté du fleuve, les gens ils vont fouiller. Ils vont comprendre que c'est un coup monté. C'est loin, c'est comme par hasard, quoi. Va Teired bat paro. Et la fille de Poro est descendue pour se laver sur le fleuve. Donc elle est descendue. C'est-à-dire quoi descendue? Il y avait des escaliers pour entrer dans le fleuve. Où il y avait une espèce de descente. Elle descendait pour se laver. Pourquoi elle voulait se laver? Est-ce que c'est laver parce qu'elle était sale? Ou est-ce que c'est laver pour aller au mikvé? Alors Chachaim raconte qu'elle était allée au mikvé parce qu'elle voulait se convertir. Et se convertir à quoi? On ne peut pas dire qu'il voulait se convertir au judaïsme. Il n'y avait pas de judaïsme, il n'y avait pas 613 mitzvot. Mais il y avait un peu plus de mitzvot. Les juifs, ils avaient un peu plus. Quoi? D'abord, la mitzvah de Brit Mila. Ça, c'était les juifs, ils étaient déjà obligés de faire la Brit Mila depuis Abraham. Et qu'est-ce qu'il y avait encore de plus chez les juifs? Il n'y avait rien de spécial. La mitzvah de Maaser. Yitzhak Yaakov, Maaser et des Tfilot. Les avots, ils ont installé le Maaser et les Tfilot. Alors ça, c'est bon. Ils avaient des coutumes, des bons midot. Ils avaient des bonnes mœurs. Ils étaient fidèles, ils ne tuaient pas les enfants. Ils ne faisaient pas d'avortement. Donc il y avait des mœurs que les Juifs se sont comportés bien. Et donc, elle se convertit à tout ça, à ces mœurs. À ce respect que les Juifs respectent, elle voulait aussi respecter, elle a compris, pour ça il fallait au mikvé. Donc le phénomène de mikvé existait déjà à l'époque, et une conversion. Pour un tiers du judaïsme, ça se passe avec le mikvé. Menaharotea holchot aliad hayor. Et ses filles, donc elle avait des protectrices, elle avait des filles des gardiennes, holchot, elle marchait aliad hayor. Au bord du fleuve. Avant c'est marqué Sfat Hayor, maintenant c'est marqué Yad Hayor. Yad, c'est la main. La main, c'est mamash proche. Les filles marchaient proches du fleuve. Et la grande raconte que le mot Holchot, elles allaient vers la mort. Parce qu'elles voulaient empêcher la fille de Paro de sauver Moshe. Elle voulait empêcher, et pour ça, elles sont mortes. Va teiret a teiva, donc elle a vu la teiva betoch asouf, au milieu des jungles. Va tishlach et amata, va tikecheha. Elle a envoyé amata. C'est quoi amata? Normalement, on traduit shifra, la servante. Et Chachaï raconte aussi amata, ama, c'est le bras. Amata, son bras. Et pourquoi son bras? Alors on veut dire un bras, il a envoyé le bras. Pourquoi son bras? Parce que c'est un bras spécial. Le bras, il s'allongeait, Rachid dit. C'est-à-dire quoi le bras, il s'allongeait? C'est physiquement le bras, il s'allongeait. C'est-à-dire naturellement, elle n'avait pas pu atteindre Moshe. Seulement si le bras, il s'allonge. Mais comment le bras, il s'allonge? Ça veut dire quoi ça? Peut-être c'est fait allusion à la Gemara Gittin, quand un homme il est heureux, les os grandissent un peu. Et quand l'homme il est malheureux, il rétrécit un peu. Mais c'est minime, c'est un millimètre, deux millimètres. D'abord, on nous raconte sur Rabbi Yochanan Zakkai avec Vespasian. Vespasian était habillé avec des chaussures. Et quand il a entendu qu'il va être nommé le roi à Rome, alors il était tellement heureux que ça gonflait et il ne pouvait plus enlever la chaussure, comme ça raconte la Gemara. Donc ça gonfle un peu, le corps gonfle un peu quand on est heureux. Alors ici, c'est-à-dire quoi? Il a étendu la main, il manquait un millimètre pour atteindre, il manquait un millimètre, mais il a gonflé la main parce qu'elle était tellement heureuse de pouvoir sauver cet enfant-là. Donc la main est devenue plus longue. Mais Rashi n'a pas l'air que ça gonflait qu'un ou deux millimètres. Rashi dit Nishtarbeba Amata Amot Arbi, beaucoup de Amot. Alors comment on peut prendre ça Kipshuto? Il ne faut pas prendre ça Kipshuto, mais c'est une façon de parler. Qu'est quoi? Qu'elle est rentrée de mettre dans l'eau. Elle est rentrée dans l'eau, elle a nagé jusqu'au Teiva pour prendre. Batikacheha, elle a pris. Alors, comment ça se fait que c'est pile la fille de Paro qui sauve Moshe? Pourquoi pile la fille de Paro? Ça aurait pu être une autre personne. Mais Hachem voulait donner un zchout pour montrer que quoi, que même quand on est né dans une famille du plus grand voyou du monde, on peut être né dans cette famille et on a le zchout de sauver. Donc, Paro, il veut tuer Moshe et la fille sauve Moshe. Et ça, c'est le phénomène des extrêmes appelés les extrêmes. C'est-à-dire quoi? Il y a une règle qui dit que quand la méchanceté déborde, elle arrive à un paroxysme, et bien ça provoque du bien. Paro était tellement méchant que la fille, elle a dit, mon père est tordu. Moi, je vais aller le contraire. Mon père est tellement tordu, c'est de la méchanceté. Quand un homme, il est un peu méchant, il peut influencer les gens. Les gens, ils peuvent dire, peut-être, il a raison. Un homme, il est méchant, il dit, les autres sont méchants, alors il y a des gens qui suivent. Mais quand l'homme, il arrive à une telle méchanceté, il va tuer tous les enfants, il va jeter dans le fleuve, les gens, ils disent, non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Ces gens-là, ils ne sont pas si méchants qu'ils méritent vraiment qu'on les jette. Dans ce cas-là, c'est pile le contraire. C'est parce qu'ils sont gentils, on les jalouse. Et ça provoque qu'il y a des personnes qui font teshuvah. L'archiracha provoque automatiquement qu'il y a des gens qui font tzadikim. Pourquoi? Parce que les gens ils comprennent que c'est les tordus, les rachats. Donc la fille des paroles, il dit, les juifs sont tellement méchants qu'il faut jeter les bébés, c'est pas possible. Eh bien mon père, c'est pas parce que mon père il est droit, ce peuple il est tordu, c'est le contraire, c'est le peuple qui est droit et mon père il est tordu. Et donc ça a provoqué qu'elle a changé. Vatiftach, elle a ouvert. Donc ça, c'est les Kriyat Yamsouf. Mais quand il y avait les Kriyat Yamsouf, les Juifs sont passés la mer. Donc on les a sauvés. Qui les a sauvés? C'est Moshe qui les a sauvés. Asia, Shir, Moshe, où venez Israël? Moshe a sauvé les Juifs. Et ici, c'est la fille des Paro qui sauve Moshe. La fille des Paro sauve Moshe, Moshe sauve les Juifs. Donc la fille des Paro sauve tout le peuple juif. Vatiftach, elle a ouvert la boîte. Batirehu etayelet. Elle a vu le garçon. Pourquoi c'est marqué etayelet? Batirehu etayelet. Batire. Pourquoi batirehu? Il fallait dire batire. Batire. Pourquoi hu? Batirehu etayelet. On aurait dû dire batireyelet. Elle a vu un enfant. Batireyelet. Va tirer où est Ayelet? Rashi raconte que ça veut dire la Shrina. Va tirer où est le Hei et le Vav à la fin qui fait allusion à la Shrina. Elle avait des yeux pour voir bien que ce n'est pas un simple garçon, c'est un divin, c'est un garçon divin. Vinei vasi na'ar boche, un jeune homme qui pleure. D'abord, c'est marqué, elle a vu un Yelet, après, il s'appelle Na'ar. Alors, elle a vu Yelet. Et maintenant, il s'en a. Alors, Rashi dit, la voix, c'était la voix de quelqu'un de grand. C'est un Yelet qui a 3 mois, mais il pleure comme un garçon de 12 ans. Déjà un Nahar, à 13 ans. Il pleurait très, très, très fort. Et pourquoi il pleurait tellement fort? Parce qu'il a senti la souffrance des Juifs. Peut-être il pleurait parce qu'il a oublié la Lernen, parce que dans les... Il a étudié au Cheder tellement bien avec le Malach. Il a tout oublié, donc il pleurait. Mais dans ce cas-là, il aurait dû pleurer depuis qu'il est né. Alors pourquoi il a tellement pleuré? Il avait soif. Il avait soif.
Yirmiyahu, quand il est né, il a pleuré pour la destruction du Beth Amigdash.
Alors lui, il a pleuré parce qu'il a vu les Juifs souffrir, parce qu'il était dans la mer, il était en danger. Peut-être il a senti qu'il est en danger. Mais la voix, on n'entendait pas la voix à l'extérieur. quoi, il y avait un toit. Elle a fermé la boîte avec un toit. Alors comment il a respiré, le gars?
C'était de la chaux.
Il y avait assez d'oxygène dedans. Oui, il y avait des petits trous pour l'oxygène. Elle a ouvert la boîte, elle a vu qu'il y avait un garçon, et elle a vu qu'il pleure. Alors, à quel moment il s'est mis à pleurer? Quand elle a ouvert ou même avant? S'il a pleuré avant, comment ça se fait qu'elle n'entendait pas avant? Donc, il s'est mis à pleurer qu'une fois qu'il s'est ouvert. Et avant, il ne pleurait pas. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de pleurer avant. Maintenant qu'elle ouvre la boîte, alors il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Pourquoi? Ça l'a dérangé. Tant que la boîte est fermée, il était content. Elle ouvre la boîte.
C'est un danger qui pleure avant, pour lui. Véhiné. Voici que c'est un instant T, Hachem, il a fait en sorte que le bébé il puisse
Pour que la pitié. Pour réveiller la pitié, parce qu'il a vu que la fille des parois est là, donc il s'est mis à pleurer pour qu'elle ait pitié de lui. Ou peut-être il avait pitié de la fille des parois. Il s'est dit, oh là là, cette fille des parois dans une maison tellement rachat, et pourtant il est tellement gentil. Et il a pleuré de voir en quel danger se trouve la fille des parois. Peut-être, tant que la boîte était fermée, il était dans son monde avec la Shrina. Il a étudié peut-être. Rachid dit, la Shrina était dedans. Il se sentait avec la Shrina et tout. Il était coupé du monde. Du moment que ça s'ouvre, il fait partie maintenant de ce monde. Alors là, il a senti la souffrance. Tachmol alav. Donc, elle avait pitié sur lui. Va Tomer, elle a dit, mi yaldei ha-ivrimze, des enfants juifs, il est celui-là. Comment elle savait que c'est des enfants juifs? Peut-être c'est un enfant goy. Parce que si c'est un goy, il n'a pas à se trouver sur le fleuve. S'il est dans le fleuve, ça doit être forcément un juif. Ou parce qu'il pleurait tellement fort. C'était des pleurs spéciaux. Des pleurs spéciales, c'est quoi? Il pleurait pour la souffrance des Juifs. Elle a senti, elle a entendu que ce petit garçon-là, il pleure pour le sort de son peuple. Ça peut être qu'un Juif. Va Tomer Achoto El Bat Parou. Peut-être elle a vu le visage. Et elle a vu le visage plein de lumière. Va Tomer Achoto El Bat Parou. Donc la sœur, elle a dit à la fille de Parou. Donc entre-temps, elle s'est rapprochée tout gentiment. Pendant que la fille de Paro, il était en train d'observer cet enfant-là, donc doucement, doucement, elle arrive. Ou comme Rachel raconte qu'en vérité, quand Tachmol, elle avait pitié, donc elle a appelé des Égyptiennes pour allaiter. Et il a refusé. Tomer, donc, elle est arrivée à la conclusion, mais il a dit, Vrimze, pourquoi il refuse de boire? C'est-à-dire que c'est un enfant juif. Donc la sœur, elle dit à la fille de Paro, Ha'elech, est-ce que j'irai? Vekerati lach isha mineket, et j'appellerai pour toi une femme allaiteuse, mina ivriot des juifs. Veteinik lach et ayalet, et va donner à boire pour toi à cet enfant. C'est-à-dire quoi, il va donner à boire pour toi? Elle va donner à boire à l'enfant, c'est-à-dire quoi, pour toi? C'est-à-dire, ne croyez pas que je cherche une femme qui essayera de retirer l'enfant. Non, 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 vous voulez adopter l'enfant, vous pouvez l'adopter, je ne vais pas vous enlever. Je vais appeler pour vous une femme juive. Elle va allaiter pour vous, c'est votre enfant. Vous l'avez trouvé, c'est votre enfant. Elle va allaiter pour vous. Va Tomer la bat paro, la fille de paro, elle dit, Lechi, va telecha alma. Elle a couru, elle est partie la alma. C'est quoi alma? Le pont d'Alma. C'est quoi le pont Alma? Alma, c'est une ville en Autriche où il y avait une guerre avec Napoléon. À Alma, Wagram et Alma. Il a gagné Napoléon les guerres. Vatelecha Alma, elle est partie à Alma pour gagner la guerre. Bon, alors, Vatelecha Alma, l'Alma, elle est partie. Alma, ça vient de quel mot? Elem. Elem, c'est un jeune homme très vif. Alma, c'est le féminin. Vatikra et em hayalet. Elle a appelé la mère de l'enfant. Vatomar lobat paro, la fille de paro, elle dit Heilichi, prends. Prends. Et hayalet azé, ce garçon, veheiniki hu li, et tu vas l'allaiter pour moi. Je paierai. La femme a pris l'enfant et l'a donné à boire. Pourquoi la Torah parle tellement longtemps de cet allaitement? Allaitement, allaitement, plusieurs fois allaitement. C'est-à-dire que l'allaitement, c'est un acte fondamental pour la construction de la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire un enfant qui a une mère qui allaite, il se sent en sécurité. Il est heureux qu'il a sa mère, et ce bonheur que l'enfant il a, il vaccine la personne pour se sentir en sécurité dans la vie, donc pour affronter les dangers. Moshe devait affronter tous les dangers du monde, affronter un paro, affronter le pays d'Égypte, affronter le murmure des juifs, affronter tous les dangers, toutes les guerres. C'est la vie très très difficile que Moshe il avait. Et il faut être prêt à le faire. Et pour être prêt, il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut qu'il sera né dans des conditions heureuses. Et sa mère, quand un enfant il boit le lait de sa mère, il se sent en confiance. Alors il est en confiance, il est en sécurité. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'un enfant qui n'a pas de mère pour l'allaiter, il manque quelque chose. C'est un orphelin. Aujourd'hui, les femmes travaillent. Et elles n'allaitent pas tellement. Et c'est une tragédie. C'est une tragédie. Il faut en priver les enfants de c'est la Torah, donc très attention, faites très attention. Et en plus forte raison, si la mère, c'est une tzaddikette. Et dans ce cas-là, ce lait a donné de la chokhma à Moshe Rabbeinu. Ce lait, la Torah parle du lait de Chana, elle a donné à boire à Shmuel, elle parle de Sarah, elle a donné à boire à Yitzhak et aux autres, et Nika Balim Sarah, Sarah, il a allaité beaucoup de gens. C'est marqué dans Medrash, tous les gens qui amenaient leurs enfants le Shem Shemaim chez Sarah, et ils avaient bu, ces enfants, ils ont bu du lait, ils sont tous devenus des Yerei Shemaim. Le Medrash, Rabba raconte ceux qui amenaient les enfants chez Sarah le Shem Shemaim, l'enfant est devenu Yerei Shemaim, et les gens qui amenaient leurs enfants pas le Shem Shemaim, les enfants sont devenus des gouverneurs. Parce que Sarah a tibam dinot, parce que Sarah c'est la gouvernance. Donc ils ont bu le lait, ils ont reçu le caractère de pouvoir gouverner. C'est-à-dire le lait d'une personne, le lait d'une femme, c'est la personne lui-même. Donc si Yochev était le bourré de Irat Shamayim, Vatirena Hamialdot et Elokim, une femme qui est le bourré de Irat Shamayim, quand elle donne à boire son lait, et bien l'enfant devient Irat Shamayim. Comme la femme de Rabbi Shimon ben Gamliel, qu'elle donnait à boire à Antoninos. Antonin, alors Corel est devenu un Yirat Shamayim grâce à ce lait, parce que le Yirat Shamayim coule dans le sang, ça coule dans le lait en tout cas, le lait, le bourré de Yirat Shamayim. Et tenir la mère, tiens, l'enfant il boit, c'est transmettre sa propre personne. Mais elle était payée pour ça, elle était payée. Combien elle a payé? Combien ça coûte payer une allaiteuse?
La fille de Paro, elle
peut payer
cher.
La fille de Paro paye cher. Un prix, ils ont fait fixer un prix princial. Alors quoi? Et plus, il était grand, donc il buvait beaucoup. Donc il buvait comme ça 3 litres par jour, parce qu'il est devenu grand, il est un mototeur. Donc il buvait des tonnes et des tonnes de lait, il fallait payer ça. Donc ils sont devenus riches. Donc pourquoi la Torah nous raconte ça? Oh, quoi?
C'est les Lévis, donc c'est Olam HaTorah, donc elle a quelque part financé le Olam HaTorah, quoi.
Ah, ça fait allusion à Antoninos. Ça fait allusion qu'Antonin, il a financé après Rebbi. Tout le collège de Rebbi était financé par Antonin. Là-bas, la femme de Rabbi Shigli, elle a donné du lait au Goy, et le Goy, après, il a financé. Et ici, la fille de Paro, elle a demandé à Yocheved de nourrir et elle a financé. combien c'est si important, pourquoi Yocheved, il manquait d'argent, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a fait avec cet argent? Elle a acheté une paire de tefilin. Qu'est-ce que Yocheved a besoin d'argent de la fille de Paro? Pour dire qu'on est récompensé pour faire une mitzvah. Elle allait de son propre enfant et en plus elle est payée. C'est une bonne affaire, ça. C'est l'allocation familiale.
Elle en a sauvé des tas.
Allocation post-natale, comment ça s'appelle? Une allocation post-natale, elle a reçue. Paro voulait exterminer tous les enfants juifs. Eh ben, avec quel argent elle a payé? Elle avait quoi? Elle avait sa tirelire. Elle avait un petit tirelire, la princesse. Il avait une allocation par le père. Elle a payé. Elle a fait quoi avec cet argent, Yocheved? Anieten et Secharech, peut-être c'est dans l'autre monde. Non, c'est la fille de Paro qui dit, je vais te donner ta récompense parce que tu es allaite. Mais madame, c'est normal que j'allaite mon fils. Mais elle n'a pas raconté que c'est son fils. Je vais vous donner votre récompense. Le salaire, pourquoi?
C'est pas grave. Le salaire et la récompense.
Un salaire, je vous donne un salaire. Pourquoi la Torah nous parle de ce salaire? En quoi c'est important à savoir? Que la fille de Paro, vraiment, elle voulait que l'enfant est elle. Allaiter pour moi, parce que la question, avant elle dit, allaiter pour moi cet enfant. Je veux que c'est mon enfant, vous allaitez pour moi, parce que si je ne paye pas le salaire, donc elle allaite pour elle. Mais la fille de Paro voulait qu'on allaite pour elle, pour qu'elle puisse récupérer cet enfant. Je paye, comme ça c'est mon enfant. Elle voulait à tout prix avoir des enfants. Et pourquoi elle voulait avoir cet enfant? Elle voulait l'amener chez lui dans le palais royal. Et pourquoi elle voulait l'amener dans ce petit? Elle voulait, pourquoi elle était célibataire, elle n'a qu'acheté un petit chien, un chat, un petit hamster, un petit perroquet, non. Ah, un enfant juif, je vais élever un petit enfant juif, et en plus il est mignon le gars. Je vais élever un petit garçon juif. Elle était têtue cette fille. Son père voulait exterminer les juifs et elle fait rentrer un petit juif chez elle à la maison. Tout ça s'est mis en chemin parce que Moshe devait être élevé dans un palais royal. Parce que Moshe doit être le roi des Juifs. Pour être le roi des Juifs, il faut être élevé dans un palais. Ah, c'est un palais goy, c'est pas grave, mais c'est un palais. C'est goy, mais c'est un palais. Donc on apprend des mœurs. Et quoi, les mœurs des rois goy, c'est des mœurs royales. Dans un palais, c'est spécial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même les goyim. Quand il y a malchut, quand il y a la royauté, il y a des mœurs très spéciales. Il y a une certaine dignité. Dans un palais, on se comporte, on parle gentil, on n'insulte pas. Il y a une ambiance. Dans un palais chez un roi, il y a une ambiance. D'ailleurs, il y a une grande ambiance de crainte. Devant roi, tout le monde craint, tout le monde il respecte. Et on dit que le respect qu'on donne à un roi, à travers ce respect, on peut apprendre le respect qu'on doit à Hachem. La Yirat Shemaim, on craint Dieu, on craint un roi. Alors, par exemple, tu vas à l'Élysée, devant le président, il y a une crainte. On ne peut pas parler devant un président, on ne peut pas rigoler devant un président comme ça. On ne peut pas s'abaisser comme ça, faire des petites blagues, ça ne se fait pas. Devant un président, il faut être sérieux. Quelqu'un qui est invité chez le président de la République pour un quart d'heure, il a un quart d'heure pour parler quelque chose, il concentre ses paroles, il parle sérieusement, on n'est pas là pour blaguer, pour trucs, c'est pas la basse classe. C'est pas... Devant un roi, il y a malchut, il y a une grande crainte, et cette crainte, Moshe Rabbeinu devait avoir élevé dans cette ambiance. On ne peut pas dire n'importe quoi devant le président, sinon il peut s'énerver, il peut punir. Si on dit un mot à travers au président, ça coûte cher. Hein? Quand il est chez Hollande, s'il insulte, fiscal. Tout de suite, truc fiscal. Quand quelqu'un a la chutzpah. Hein?
C'est vrai?
faut faire très attention. Et pas seulement un président, même un maire, un député, hein, tous les hommes politiques, si quelqu'un l'insulte, et type le téléphone, contrôle fiscal. Et c'est pour ça les gens, ils ont peur. Il faut faire attention. Et Moshe devait être élevé dans ce palais royal. Et l'enfant est devenu grand. Ah, il est devenu grand. Vraiment, même physiquement, il est devenu grand, pas comme un autre enfant. Il a poussé plus vite. Il a poussé plus vite. Quand il dirait que le lait de Yocheb était, il y avait beaucoup de calcium, beaucoup de vitamines, Il y avait là-bas quelque chose qui faisait pousser le corps de Moshe. C'était du lait spécial, cette lait. Alors, Vayikdal Hayel, devenu grand, Vatibiyehu El Bat Poro, il l'a amené vers la fille de Poro. Vayihila Leben, il est devenu le fils de la fille de Poro. C'est-à-dire quoi, il est devenu le fils? Ça veut dire quoi, il est devenu le fils de la fille de Poro? C'est-à-dire, elle a élevé, tu es mon fils. Il n'y a pas le royal, c'est le fils adoptif. La princesse, elle a adopté un enfant, et Paro, il est dans tous ses états. Mais elle veut même, elle coupe la tête à ce truc. Non, papa, laisse-moi, c'est mon petit gamin, laisse-le-moi et tout. Et il ne pouvait rien faire contre sa fille. Ah, on ne peut rien faire contre sa fille. Sa fille veut son petit chouchou, son petit, comment on appelle ça, peluche. Alors on ne peut rien faire. Tu ne peux pas enlever la peluche d'un fils et en pleure. Elle va pleurer. Elle veut élever maintenant cet enfant. Vayhi la le ben. Elle est spéciale, cette fille. Comment elle s'appelle déjà, cette fille de Paro?
Batia.
Batia ou Bitia, comment elle s'appelle? Ou Batia ou Bitia, c'est marqué dans Sefer Divrei Hayamim. Je ne sais pas si c'est Batia ou Bitia. Il faut regarder là-bas dans le truc. Si c'est Batia, c'est Bat, la fille Ka de Hachem, la fille de Dieu. C'est-à-dire qu'elle était religieuse. Alors, Vayhi la le ben. Vatikra. Patikra Shemo Moshe, elle a appelé son nom Moshe. Pourquoi elle appelle son nom Moshe? Tomer, elle a dit, Ki minashamay meshiti, car c'est de l'eau que je le retirais. Moshe se retirait de l'eau. Et pourquoi elle donnait ce nom? Elle aurait donné mille noms. Je le retirais de l'eau. Qu'est-ce qu'elle voulait dire avec ça? Je le sauvais de l'eau. Pourquoi ce nom? Ça veut dire quoi? Le sauver de l'eau.
Faire sortir
de l'eau, du danger. Miki min hamayim meshitihu. Moshe, c'est quelle formule Moshe? Si c'est meshitihu, il aurait dû s'appeler Meshi. Pourquoi il s'appelle pas Meshi? Pourquoi il s'appelle Moshe? Noché. Noché. Noché, c'est réclamer d'argent.
Yamouche.
Meshitihu. C'est quoi la racine? Le même fait partie de la racine? Meshitihu, le même fait partie de la racine. Meshitihu. Qu'est-ce que dit Rachid? Le Targum, il dit, ou la son hotza shechalte, la son hotza sortir, que mishchal benite hasiroti éloigné de l'eau, ou faire sortir, mishiti, ou faire sortir de l'eau. Vani omer sheine mi mechaberd mash, veyamush bouge, il mixerat masha, hotza, Rachid dit hotza, faire sortir. Meshitio, c'est-à-dire faire sortir. Ah, faire sortir. Et lui, il a sorti les Juifs d'Égypte. Cet homme, il s'appelle Monsieur Faire Sortir. Viens chez moi, Monsieur Faire Sortir. Voilà, mon fils m'a fait sortir. Et bien, parce que moi, je dois faire sortir les Juifs d'Égypte. Et lui-même, il s'est sauvé et il était tiré. C'est-à-dire, le bien qu'on te fait, tu dois faire après aux autres. Vayhi bayamim hahem. Et ce fut ces jours-là. Vaïgdal Moshe, et Moshe a grandi. Mais il était déjà grand, c'est marqué déjà Vaïgdal dans Pasuk Yud. Maintenant, Pasuk Yud Aleph, une deuxième fois Vaïgdal. Donc c'est un autre sens, Vaïgdal. Vaïgdal, ça veut dire Vaïgdal dans la maison des Paro. Il est devenu le gouverneur dans la maison des Paro. Il est monté en grade, il a reçu des. Comment on appelle ça? Quand il donne ici, là, les préfets, il donne la.
La Légion d'honneur.
Légion d'honneur, de pouvoir. Il a eu un pouvoir. Vaïgdal, Moshe. Vaïtse Elechav, donc il est sorti vers ses frères. Vaïar et les Lubes Siblotam, leur charge, leur difficulté. C'est-à-dire quand un homme il est gradé, et le but n'est pas que lui reçoive un plus grand salaire pour pouvoir mieux partir aux vacances. Un politique en monte de grade, c'est pour qu'il puisse s'occuper mieux de ses sujets. Donc Vaïar, il est sorti chez les frères, Vaïar, il est vu Bessiblotam, comment il souffre. Vaïar, Ish Mitzri, il a vu un homme égyptien. Ish Mitzri, Mitzri, il y a aussi le mot Yitzri dedans, Mitzri, il y a Yitzri, non, Yitzri. Ish Mitzri, Make, il frappe Ish Ivri, un homme Ivri, mais il frappe de ses frères. Les frères de qui? Les frères de Moshe. De qui il s'agissait? Il s'agissait du mari de Shlomit Bat Ivri. Le mari de Shlomit Bat Ivri, il est considéré comme le frère de Moshe. Quoi est le frère de Moshe? Parce que tous les juifs sont frères. Il y avait quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'était son frère?
C'est l'Égyptien qui c'était le mari? L'Égyptien qui était le mari de Shlomit?
Non, le juif qui s'est fait frapper. Le juif qui s'est fait frapper, c'est le mari de Shlomit Bat Ivri. Et ce Mitzri, pendant la nuit, il a fait une bêtise. Les Juifs, le mari, il avait du travail pendant la nuit, et lui, il est rentré dans la maison, il a fait une bêtise avec Shlomit Bat Ivri. Et après, quand le mari, après le boulot, il est rentré à la maison, alors il s'est aperçu que quelqu'un il a touché sa femme. Donc il est sorti chez ce goy, le goy était le frappeur. Il a dit, pourquoi tu as touché ma femme? Alors il a compris, ça y est, le mari est au courant, donc il a décidé de tuer le mari pour le faire taire, pour que ça ne donne pas de scandale. Parce que ce n'était pas normal que l'Égyptien il touche la femme, ce n'était pas normal. Alors donc il a voulu frapper le juif, il voulait le tuer. Alors donc Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a vu qu'il veut le frapper. Vayifen, il se tournait court. Ici, Vacho, et ici, ici et ici, à gauche et à droite, il a regardé. Vayar, il a vu qu'en Ish, qu'il n'y a aucun homme. C'est-à-dire quoi, il n'y a aucun homme? Il y avait bien Datan Vaviram, mais bon, ça, ce n'est pas des hommes. C'est des voyous. Non, mais il a vu qu'il n'y a pas d'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme qui peut le dénoncer. Qui peut dénoncer, parce que ça, c'est deux frères, c'est deux juifs, ils ne vont pas me dénoncer. Donc, il voulait regarder s'il y a un goy qui pourrait me dénoncer. Il a vu qu'il y a un ish, et l'autre pshat, un ish, ish, c'est-à-dire tzadik, il n'y a pas de tzadik qui sortira de cet homme-là. Vayach et Amitri, donc il a frappé l'Égyptien. Vayit mené au bachol, il a enterré
dans le sable.
Le sable. Pourquoi sable? Depuis quand il y a du sable là-bas? Il y a du sable, la terre. Pourquoi ça s'appelle chol? Pourquoi c'est pas marqué vayit mené au be'afar? On aurait dû dire, il a caché Baafar dans la terre.
Parole.
Pourquoi sable? Pourquoi Chol? C'est bizarre cette histoire, Chol. Pourquoi Chol? Sable, c'est au bord de la mer, le sable. Bon, pas seulement.
En Égypte, c'est le désert, il y a pas mal de sable.
Parce que c'est un désert. Quoi, il habitait dans le désert, on n'est pas trop loin du palais royal. Non, peut-être c'était lui loin.
En Égypte, la terre, elle est meuble.
Parce qu'il fabriquait Mistama les pyramides. Et pour fabriquer les pyramides, pour monter les pierres, il faut beaucoup de sable pour créer comme ça, pour pouvoir monter les pierres en haut, il fallait des échafauds. Et ces échafauds, on utilisait beaucoup de sable. Donc il a enterré dans le sable, il a frappé, avec un taser, comment il a frappé? Avec ses mains. Alors la Gemara nous dit qu'avec le nom d'Hachem, il a frappé. Pshat Pashut, il a frappé avec ses mains. Il était costaud. Il a donné un coup à l'Égyptien. Il a enterré dans le sable. Et pourquoi il regarde de gauche et à droite? Il ne voulait pas se faire dénoncer. C'est-à-dire, si tu veux tuer les Égyptiens, mal que tu as raison, il faut le faire d'une façon qu'on ne t'attrape pas. Si on t'attrape, ça n'a pas la peine. Il est sorti le deuxième jour. Deux juifs qui se disputent. Vayomar la racha, il dit au racha, lama takerecha, pourquoi tu frappes ton copain? Alors, on continue. Vayaitse bayom hasheni, donc il est sorti le deuxième jour. Le deuxième jour. Pourquoi on nous dit le deuxième jour? Le lendemain. Yaitse mimocharat, le lendemain. On ne dit pas le mot lendemain, on dit le deuxième jour. Bizarre cette expression. C'était un lundi, Yom HaSheni, lundi. La première, c'était un dimanche. La Gemara dit, ce qui est né le lundi, il est nerveux, comme ça dit la Gemara, d'après un avis, parce que le lundi, Dieu, il a séparé le ciel de la terre, l'eau du ciel et l'eau de la terre, et cette séparation crée une nervosité. Les disputes, un disputeur, ça c'est, alors donc un dispute, Bayom HaSheni, le lundi. Lundi, c'est un jour que le Bedin juge. On dit le Bedin juge le lundi et le jeudi. Ezra Sofer, il a instauré. Et donc, c'est Moshe Rabbeinu, il a jugé ici. C'est devenu un jour de jugement parce que Moshe, il a jugé ces gens. Vineshnei Anashim Ivrim Nitzim, deux juifs qui se disputent. Anashim, c'est des gens importants. Donc, Rashi dit Shnei Anashim. Datan ben Aviram ben Reuven, les copains de Korach, c'était les petits-enfants de Reuven. Et eux, ils devraient être le chef. Reuven était le Bechor de Yaakov. Et Reuven, son fils Bechor, il s'appelait quoi? Comment il s'appelait le fils Bechor de Reuven? Eliav. Et eux, c'est les enfants de Eliav. Donc c'est une famille qui prétend la gouvernance. Eux, ils pensaient qu'eux, ils méritent de gouverner les Juifs. Et ils se sont disputés pourquoi? Pourquoi ils se sont disputés ces deux-là? Sur de quoi il s'agissait? Sur quoi ils se disputent ces deux? Nitzim. Ça vient du mot netz. C'est quoi netz? Épervier. Net, c'est un oiseau qui est rapace. Un épervier, c'est un oiseau rapace, un oiseau pas cachère. C'est des éperviers, les deux. Ils veulent manger les autres, hein, ils voulaient manger l'autre, et pourtant, c'était des frères, non? Datan Vaviram, c'était deux frères. Comment deux frères, ils peuvent se disputer? Qui est le fils aîné? Datan était le fils aîné. Mais Reuven aussi était le fils aîné, comme on a donné après Yosef. Donc, ça veut dire, Datan, il a dit, je suis le fils aîné d'Eliav, qui est le fils aîné de Reuven, c'est moi le roi. Et Aviram, il a dit non. Moi, je suis mieux comme Rouven aussi a été détrôné. Donc, Aviram considérait qu'il faut détrôner Datan de la royauté. Donc, ils se disputent pour la royauté. Qui va être le chef du peuple juif? Ils se disputent. Nitzim.
La royauté ou la
Bechora? La Bechora.
Yehuda, c'est la royauté, non?
Oui, mais ça, peut-être, eux, ils n'étaient pas encore si d'accord avec ça. Pourquoi pile ce jour-là, ils se sont disputés? Ils n'avaient pas un autre jour pour se disputer que ce jour-là? Ils n'avaient pas un autre moment pour se disputer? Parce qu'ils ont vu la veille Moshe sortir. Ils ont vu la veille Moshe tuer l'Égyptien. Ils se sont dit, ce monsieur, il se prend pour le juge. Ce monsieur, il se prend pour le chef, ce Moshe. Eh bien, dis donc, il se prend pour qui, ce Moshe? Il veut se nommer juge ici. Donc quoi? Ce dispute, c'était un faux dispute?
Ah.
C'était quoi? C'était une mise en scène ou c'était vraiment? Ou peut-être ils ont vu que Moshe, il a jugé. Alors Datan, il a dit, bon, moi, je vais me nommer aussi juge. Je vois ce garçon-là qui est sorti du palais royal, il se fait juge. Moi aussi, je suis le juge. Alors Aviram a dit, hé, frère, aussi déjà un juge, c'est moi. Moi, je suis mieux. Et le premier dit, non, moi, je suis le pro, c'est moi. Il dit, mais je suis mieux que toi. Ah, ils se sont disputés. Vayomer la racha. Ou aussi parce qu'ils ont vu Moshe frapper l'Égyptien. Donc, ils ont vu un acte de violence. Ils se sont dit, nous aussi, on peut être violents. Vayomer la racha, il a dit au voyou, lama takerecha, pourquoi tu frappes ton copain? Est-ce que Moshe, il a prononcé le mot racha? Vayomer, il a dit la racha. Qui l'appelle racha? C'est la Torah qui l'appelle racha ou c'est Moshe qui l'appelle racha?
C'est la Torah.
La Torah. Et peut-être Moshe aussi, il a dit racha. Lama takerecha, pourquoi tu frappes ton copain? Pourquoi ton copain, Rachidi, il est racha comme toi? Moshe Rabbeinu, en vérité, il appelle les deux rachaïm. Pourquoi? Parce qu'ils se disputent. Mais quand Dieu se dispute, c'est pas forcément les deux sont rachaïm. Peut-être il n'y en a qu'un qui est racha et l'autre il est victime. Il a vu qu'il n'y a pas de victime. Les deux, c'est des agresseurs. Comment il a vu ça? Lama take. Take, ça veut dire quoi? Tu frappes. Rachidi qui n'a pas encore frappé, il a levé la main. Mais pourquoi les deux sont rachaïm? Parce que le premier, il a donné un coup. Quand Datan, il a donné un coup à Aviram. Et Aviram voulait donner un coup à Datan. Alors c'est permis, c'est quelqu'un de frappe. Tu as bien le droit de le refrapper. Pourquoi on est racha? Parce qu'il n'aurait pas dû se disputer. Parce qu'un homme qui n'est pas racha, il vit avec son frère sans se disputer. Comment? Ben, si l'autre est maigresse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a donné un coup, je lui donne un coup. Peut-être le premier n'a pas donné un coup, il a seulement insulté. Le premier a insulté son frère, alors le frère voulait frapper. Si on t'insulte, tu n'as pas le droit de frapper. Il t'insulte, tu l'aurais insulté, mais frappé. Et Rachid dit qu'il appelait deux Rechaïm. Il faut dire qu'un, il a insulté injustement l'autre. Et pour ça, il est racha. Et le deuxième voulait frapper, et frapper, c'est déjà un plus grand degré. Il ne faut pas augmenter la violence. Si on augmente la violence, on est racha. Vayomer, et il a dit. Il, on ne sait pas qui. Qui est-ce qui a dit il? Il, c'est celui à qui il a adressé la parole. Vayomer, l'autre, il a dit donc, mi samcha, qui est-ce qui t'a nommé les ish comme homme, sar, ministre, vechofet et juge, aleinu, au-dessus de nous? Qui t'a nommé au-dessus de nous? C'est-à-dire, c'est bien, il était orgueilleux. Les Datan Bayram, ils sont orgueilleux qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux. Qui est-ce qui t'a nommé au-dessus de nous? Nous nous considérons comme les chefs des Juifs. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de nous. C'est-à-dire, dans les insultes, ce qui énerve les gens, c'est le fait que l'autre, il se prend pour plus juste. Et ça, les gens n'acceptent pas. Toi, tu crois que tu es plus juste que nous? Ça, c'était une humiliation. Ils se sont sentis humiliés par Moshe. Pourquoi tu es sar, Shofet Aleinu, Halahorgenia, ton mère, est-ce que pour me tuer, tu parles? Tu veux me tuer? Kacher Arak et Mitzri, de la même façon que tu as tué l'Égyptien.
Donc il savait qu'il était juif alors.
Et peut-être tout le monde le connaissait, Moshe Rabbeinu. Tout le monde, il savait que la fille de Paro, elle a adopté un garçon. En tout cas, ils l'ont reconnu. Kacher Arak et Mitzri. Et si on va dire qu'il a tué l'Égyptien avec le nom d'Hachem, donc il avait entendu comment il a prononcé le nom d'Hachem, est-ce que pour me tuer, tu parles comme tu as tué l'Égyptien, tu veux me tuer peut-être? Alors il agresse Moshe. Moshe Rabbeinu n'avait pas l'intention de le tuer, il a dit simplement Racha. Alors lui, qui veut tuer son chien, il accuse de la rage. Il accuse Moshe Rabbeinu, ah, tu veux me tuer? Ici, il prépare déjà la permission de tuer Moshe. Parce que toi, tu veux me tuer? Mais moi, je ne veux pas te tuer. Pourquoi tu parles de tuer? Je t'ai dit de moi ça. Ah non, tout de suite, ils vont dire, tu veux me tuer? Comme tu as tué les Égyptiens. Ça veut dire que pourquoi il accuse Moshe Rabbeinu de vouloir le tuer? Comme ça, il peut aller le dénoncer à la police. Parce qu'eux, ils sont partis le dénoncer à la police. Donc si Moshe Rabbeinu dit, pourquoi tu me dénonces à la police? Il dit, parce que je me suis senti en danger de mort, je croyais que tu veux me tuer. C'est toujours que ceux qui veulent tuer son chien, il accuse de la rage. Il voulait liquider Moshe, donc il accuse que Moshe voulait le tuer. Vérité, c'est du bluff, Moshe ne voulait pas tuer. Vaïra Moshe Vayoma. Moshe, il avait peur. Tiens, Moshe, il a peur, ça, Chetouche. Il a peur. Il a peur de l'Égyptien, il n'avait pas peur, mais des Juifs, il avait peur. Parce que c'est des voyous, les Juifs voyous, leur enfant peur. Voyomar, il est dit, Achen Noda Hadavar, Achen, la vérité, il est Noda Hadavar, la chose se sut. Que moi, je tue l'Égyptien, ça se sait. Mais en tout cas, lui, Moshe, et Rachid, une autre pshat, maintenant, je sais la chose, c'est pourquoi les Juifs sont en exil. Parce qu'il y a des voyous comme ça chez les Juifs, des dénonceurs, des Juifs qui dénoncent d'autres Juifs. Parce qu'un juif qui dénonce un autre juif, c'est plus grave qu'un goy qui dénonce un juif. Parce que normalement, les juifs se font confiance. Vaïshma Moshe, Vaïshma Paro et Tadavarazé. Paro, il a entendu la chose. Vaïvakesh la haroget Moshe. Il cherchait tuer Moshe. Donc, il a jugé Moshe. Il a cherché à tuer Moshe. C'est de quoi il a cherché à tuer Moshe? Il a mis beaucoup de force, parce que c'est marqué qu'ils ont pris l'épée, ils ont frappé sur le cou de Moshe, le cou de Moshe est devenu dur comme le marbre. Il y avait un grand balagan là-bas, ils ont essayé des différentes morts. Et Moshe, il a réussi à se sauver. Il va kesh la roguette Moshe, il essayait, ça ne marchait pas. Yivrach Moshe mipnei Paro. Et Moshe s'est sauvé devant la face de Paro. Donc Paro, il était présent pendant le jugement, pendant l'exécution, et il était aveugle. À un moment, il est devenu aveugle, et Moshe, il a pu se sauver. Tous les gens sont devenus aveugles, ils ont frappé par amorose, comment ça s'appelle?
Aveugle?
Oui. Vaivrach Moshe mipnei Paro. Moshe sauvé devant Paro. Vaiyeshev. Il s'est installé à Eretz Midian, dans le pays des Midian. C'est où le pays des Midian? C'est où le pays de Midian? C'est dans le Midbar Sinaï, ou c'est en Jordanie, ou c'est en Arabie Saoudite? C'est où le pays de Midian? Normalement, le pays de Midian, c'est en Jordanie. C'est-à-dire qu'il est parti depuis Mitzrayim jusqu'en Jordanie. Il est parti dans le pays de Midian, c'est loin, tellement loin. Pourquoi il n'est pas resté dans le Midbar Sinaï? C'est trop proche d'Égypte. On va le trouver facilement. Il est allé loin. Donc, Moshe, il est obligé de se sauver. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Ce qui va libérer les Juifs à la fin est obligé d'être en exil. Séparé des Juifs. Yosef aussi. Yosef a sauvé les Juifs. Alors, d'abord, il était seul dans un autre pays. Maintenant, Moshe aussi, il est seul dans un autre pays. Comme ça, la carrière d'un sauveur, c'est de d'abord être en lit. Et beaucoup des sauveurs étaient comme ça, l'Avdil. Nelson Mandela était là, il était 27 années en prison. Il y a beaucoup de gens comme ça. Avant d'être le chef, on passe par le prison. Donc il s'est installé dans le pays des Midian, va Yeshef à la Be'er. Donc il s'est installé à côté du puits.